je ne vous oublierai jamais.
RVE, bonne matinée. Il est 10h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous, la rétrospective de votre actualité de la semaine. Bon, faut-il en reparler de François Fillon, de l'affaire Fillon ? Vous savez tout, il n'y a plus de campagne, on ne parle plus que de François Fillon. Emmanuel Macron a bien tenté de dérouler son programme cette semaine, mais sans grande accroche. Rien n'y fait, Fillon, et toujours Fillon, un crash, disent certains. Pas sûr, disent d'autres. De la même façon que Macron est surcoté, la fameuse bulle médiatique, on rétorque que la crise Fillon est surcotée, elle aussi. Des membres du parti le lâchent, des jupéistes, des sarkozistes, des caciques, en tout cas, la base, elle tient, dit Fillon. Et il compte là-dessus, sur son socle, la droite de la droite, celle qui a porté de façon inattendue François Fillon à la victoire de la primaire. Ce socle électoral est toujours là parce qu'il ne peut pas voter autrement, faute d'une offre satisfaisante pour sa ligne. Ce socle a mis les sondages dans le vent à la primaire. Il peut faire de même pour le premier tour de l'élection présidentielle. C'est la conviction de François Fillon qu'il a une base de 20% et que ça suffira, que Macron, identifié comme héritier de François Hollande, finira par chuter et qu'il pourra passer le candidat Les Républicains. Les ennuis judiciaires, on va les court-circuiter par l'appel au peuple. Dans un accent gaulien, le suffrage universel sera le seul juge de paix. En attendant l'heure de vérité, c'est dès ce dimanche après-midi 15h avec cette manifestation de soutien à place du Trocadéro. Il faut évidemment qu'elle soit noire de monde pour que François Fillon puisse rebondir. Alors à propos de pouvoir, cet aveu cette semaine, notre pays est gouverné par 3000 personnes qui détiennent les clés du pouvoir. Ce n'est pas un conspirationniste qui l'a dit, un complotiste, mais Axel Le Maire, ancienne ministre, secrétaire d'État au numérique, elle a démissionné cette semaine pour s'engager dans la campagne de Benoît Hamon. Et au passage, dans une interview à Libé, elle parle des élites politiques, administratives, économiques et médiatiques de notre pays qui détiennent le pouvoir. Donc selon elle, un pays doit pouvoir en effet se reposer sur des élites, mais des élites représentatives et redevable. Elle affirme donc que ce n'est pas le cas. Et télescopage, coïncidence de l'actualité, François Hollande était en visite officielle chez les francs-maçons lundi, une première pour un président en exercice. Enfin, cette semaine, ça a été le 1er mars. 1er mars, changement, le sport sur ordonnance. On peut désormais, pour les personnes atteintes d'une maladie chronique ou de longue durée, cancer, diabète, maladie cardiovasculaire, pouvoir se voir prescrire une activité sportive adaptée par leur médecin. Autre nouveauté depuis le 1er mars, l'économie collaborative est taxée. Vos petites annonces sur le bon coin Airbnb, Blablacar, il faudra en déclarer le revenu pour être éventuellement imposé par l'État. Enfin, deux infos, deux indices qui en disent long sur notre société, sur les changements de société, voire de civilisation. Ce sont des marqueurs. Le sandwich jambon beurre recule en France. Ce n'est pas une blague. Moins 3% de vente, encore une fois, l'an dernier. Deuxième année consécutive de recul du jambon beurre, cette institution française. Et puis, autre indice qui marque un changement sociétal, l'application Snapchat entre en bourse pour 2,4 milliards de dollars. Un rappel, Snapchat, c'est du vide. Les messages sont envoyés et ensuite ils disparaissent. Voilà pour cette rétrospective. Merci de nous avoir choisi. Passez un bon dimanche.
La météo de votre région sur RVE.
La météo pour ce dimanche, sachez que le temps sera nuageux et pluvieux avec des températures de 8 degrés dans la journée maximum. Actuellement, on est à 4 à 5. On va avoir des rafales de vent, ce qui ne va pas avantager les coureurs cyclistes du Paris-Nice. Ils vont avoir fort à faire.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Et oui, Paris-Nice, ça sera un des grands événements de ce week-end sportif, on en reparlera. Bonjour à tous et à tous. Naturellement, c'est le premier dimanche du mois de mars, donc place au foot ce matin avec une abondante et une riche actu foot. Ils sont pratiquement tous là, sauf notre ami Bibi, qui a des petites difficultés à récupérer après l'élimination des Verts, donc face à Manchester United en Europa League. On va saluer donc à tour de rôle nos invités, notre ami Olivier qui est avec nous. Olivier, bonjour.
Bonjour.
Ça fait un petit moment qu'Olivier n'était pas là. Bon, l'Olympique de Marseille, période un peu difficile.
Ouais, très très difficile. On est dans une période un petit peu plus que creuse. Mm-hmm. Mais bon, c'est bon. Alors, il reste encore 11 matchs pour clôturer du mieux possible le championnat.
Très bien. Donc, à côté, notre ami José Vega, le plus portugais des supporters du Paris Saint-Germain. Ça va, José ?
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Oui, ça va très bien.
PSG, toujours sa petite course en avant, à égalité de points que Monaco, pratiquement, et puis Nice. Mm-hmm. Bon, hier, c'était un peu tiré par les cheveux, mais bon, je sais que ça plaira pas à Juliette, elle me regarde un peu de travers, mais je dis ce qui est, c'était un peu tiré par les cheveux.
On va saluer Boris, qui est avec nous. Salut Boris, ça va ?
Bonjour Philippe.
Bonne gueule, le triplé auparavant, quand même. Prix d'Amérique, prix de France et prix de Paris.
J'ai jamais vu de 40 ans d'histoire, en ce qui me concerne, j'ai jamais vu un champion comme ça. Mm-hmm. On l'avait annoncé, il se balade et il fait ça à la manière des forts. Donc extraordinaire, ouais. Mm-hmm. Du beau spectacle.
Voilà, puis t'aimes autant le ballon que les chevaux, ça va le foot ? Tu vois des beaux matchs comme nous ?
Oui. Bon, on attend Paris cette semaine, là, ça va être sympa. C'est quand même assez rare pour les Français de jouer des matchs de ce niveau-là. Voilà, donc on va en profiter.
Quel match on va en parler. Quel match. On salue notre ami Pierre aussi, le Marseillais. Ça va Pierre? Comme
salut
Olivier,
Philippe.
Même sentiment, c'est un peu difficile.
Ouais, c'est une période creuse, mais je sais qu'on va rebondir dès cet après-midi.
À Lorient, hein, contre le dernier du championnat.
Non, mais il va falloir.
Très bien, on va saluer notre ami Ch'ti, Francis Coche. Ça va Francis?
Oui, bonjour à tous. Oui,
bon
ça va
football,
bien.
Ch'ti.
Ouais, c'est moyen.
Mi-fig, mi-raisin, hein.
Ouais, mi-fig, c'est surtout pas terrible, oui. Actuellement, ça craint pour les deux équipes. Mais bon, il y a que Lens qui va pas trop mal.
On va faire un petit coucou à notre ami Edouard, le Sphinx. Ça va, Edouard?
Oui, ça va. Bonjour à toutes et à tous. Oui, ça va.
Bon, on parlera de mon copain, on va lui rendre naturellement hommage.
Oui,
c'est la moindre des choses.
J'ai sa signature
en
plus.
Bah oui, et puis toi, t'as dû connaître bien son époque, peut-être un peu mieux que nous. Allez, on salue aussi Arnaud qui est avec nous. Salut Arnaud, ça va?
Bonjour Philippe, ça va très bien.
Le PSG euphorique actuellement.
Le PSG euphorique, une très bonne période pour le foot français. Monaco, on espère que ça passe aussi dans 10 jours. Donc très bon pour le foot français en ce moment. Ouais.
Très bien. Et puis, Juliette, elle aussi, elle est euphorique actuellement, tout va bien.
Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, ouais. Écoutez, le Paris Saint-Germain se porte bien. Bon, dire que Paris choisit ses matchs, je dis non, parce que quand même, ils ne veulent pas se blesser, ils ne veulent pas non plus, en attendant le match de mercredi. Non. Alors, il faut jouer tranquille.
Il y a
faut
eu quand
jouer...
même un petit loupé, PSG Toulouse, c'est dommage.
Ah oui,
c'est dommage.
Toulouse, oui,
c'est dommage.
Peut-être. Oui, mais ils étaient tous derrière aussi, Toulouse. Ils étaient comme Marseille.
Ah oui, mais ça, bon, les
vous
trois quarts des équipes
vous avez trois TGV, deux trains et puis trois métros devant, alors derrière.
Alors, on va en discuter naturellement, hein. On va parler des Coupes d'Europe, on parlera donc de ce passionnant championnat de la Coupe de France. Mais la moindre des choses, c'était de rendre hommage à cette immense légende du sport français, du foot, Raymond Coppa, qui nous a quittés 85 ans. Boris, on a eu l'occasion d'interviewer donc Raymond Coppa, c'était il y a deux ans et demi, quand il était venu dédicacer son livre. Je l'avais aussi interviewé quelques temps plus tôt avec Justo Fontaine, lors d'une remise des prix nationaux du Fair Play à Paris. Bon, alors c'est vrai que autour de la table, peu peuvent parler de Raymond Coppa, mais il faut dire, à tous les jeunes qui nous écoutent, c'était l'équivalent de Michel Platini et Zinedine Zidane à son époque.
Ah oui, c'est difficile pour moi d'en parler au niveau professionnel, parce que c'est pas de ma génération. Ouais. Mon père m'en parlait beaucoup, deux idoles, c'était Di Stefano et Coppa. Allez. Donc voilà quoi. Et par contre, moi ce que je retiens de cet homme, parce que j'ai eu la chance de le croiser comme on l'a fait, c'est quelqu'un de relativement simple, qui ne savait parler que de ballon, c'est ce qu'il me disait en deux mots, qui partageait sa vie entre Angers à sa retraite et la Corse.
Oui,
il aimait beaucoup la Corse.
Corse.
C'est ça, exactement. Et puis un petit point commun que j'avais avec lui, c'est qu'on est nés le 13 octobre tous les deux, donc pas la même année forcément. Mais voilà, c'est quelqu'un de sobre, d'intelligent et quelqu'un qui était qui avait beaucoup d'humour. Pour le peu que je l'ai rencontré, un quart d'heure quand on a, j'ai quelques photos avec lui. Donc hommage à sa carrière, hommage à cet homme. Et puis effectivement, faut se repasser dans le contexte des années 60.
Il n'y avait pratiquement pas les matchs qui étaient diffusés à l'époque. Hein. Les matchs étaient pratiquement pas montrés à l'époque. Il faut le dire.
Non, mais peut-être que Doudou peut-être que tu connais un peu plus sa carrière que
On peut dire qu'il a été Ballon d'Or en 1958. Il a gagné trois fois la Ligue des Champions, puisque il faut quand même aussi dire que c'est le premier Français qui est parti carrément à l'étranger. Il a joué une finale perdue avec le Stade de Reims en 56 contre le Real. Il a quitté ensuite Reims. Il a gagné trois finales de Ligue des Champions, dont celle de 59 contre son ancien club, le Stade de Reims. Il est revenu après donc finir sa carrière au Stade de Reims. Il a fait partie de la grande équipe de France des années de 1958, troisième de la Coupe du Monde. Et il a été d'ailleurs élu cette année-là meilleur joueur du Mondial. Bon, il a fini sa carrière un petit peu en dents de scie, hein, parce qu'il a été en désaccord avec l'entraîneur de l'équipe de France de foot de l'époque, parce qu'il avait perdu un enfant, à mon copain qui avait été victime, malheureusement, qui avait été frappé par le cancer, et il voulait des aménagements d'emploi du temps à cette époque-là. Son entraîneur l'avait refusé, donc il avait carrément mis en stand-by sa carrière.
Quand je l'avais rencontré, donc il y a 3 ans, il vendait ses livres, pour en avoir discuté avec lui, il était lui-même atteint de la maladie et il vendait ses livres, il prenait pas un centime sur tous les livres.
Il faut le dire.
C'était uniquement pour faire avancer la cause qui semblait pour lui malheureusement être avancée.
Et son transfert à l'époque a permis d'acheter 3 joueurs et non des moindres, Roger Piantoni et puis Justo Fontaine. À l'époque, son transfert au Real a permis donc au Stade de Reims d'acheter ces 3 joueurs.
Et c'est le premier qui a initié le fait qu'un joueur puisse être sous contrat avec un club et puisse aussi s'en détacher en signant des contrats à durée déterminée. Quoi, en fait, c'est le premier qui a œuvré dans ce sens-là. Il y a eu Larry Bosman après sur d'autres cas, mais c'est Coppa qui a initié le fait qu'aujourd'hui, les joueurs puissent signer des contrats courts et partir ailleurs.
Et il a faut. Il nous avait dit qu'il avait fait du foot jusqu'à 70 ans. Il a joué jusqu'à 70 ans en vétéran. Puis Olivier, qui aime bien le tennis aussi, il a été 15-5 en tennis. Et on s'est rappelé qu'il avait fait aussi le Paris-Dakar. Il avait terminé en 85 sur une Pajero Mitsubishi. Il avait terminé 63e du Paris-Dakar à l'époque. Voilà. Édouard.
Non,
Coppa, c'est ta jeunesse. C'est toute.
Ah oui, je l'ai suivi.
Les icônes du sport français.
Au Real et
au Stade de Reims. Il n'y avait pas autant de matchs à l'époque.
Oui, c'était un très grand joueur. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mm-hmm. Et j'étais très content de le rencontrer
à Paris.
Oui, à
la remise des prix de.
Oui, au Fair Play. Tiens, on était ensemble quand on l'avait interviewé, c'est vrai.
Avec Justo Fontaine. Et la signature de.
De Justo Fontaine aussi, non ?
Juste Fontaine, un mot aussi, j'ai sa carte, j'ai tout ça à la maison.
Voilà. Ça c'est collector, faut garder sa vie. Hein. Francis ?
Je voulais dire que c'est un peu la fin d'une histoire de fils d'émigrés polonais sont arrivés dans le Pas-de-Calais.
Parce
qu'il ne faut pas oublier qu'il a commencé à travailler à la mine.
Hein. Il avait perdu un doigt. Il avait perdu un doigt à l'époque.
Il
était obligé de faire du foot parce qu'il ne pouvait plus continuer à la mine quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, ça.
Il a travaillé
c'est
à la
important.
Mine. Ouais, tout à fait.
Alors, on ne va pas faire de politique, mais enfin, 3 grands champions immigrés, c'est peut-être un symbole. Hein. Voilà.
Oui, mais enfin, à l'époque, dans le Nord-Pas-de-Calais, c'était ça. Hein, et beaucoup de grands joueurs ont été des fils d'émigrés polonais.
Oui, c'est vrai qu'il avait travaillé à la mine. Il nous avait expliqué, il avait perdu donc son doigt. Arnaud, Pierre, les jeunes, bon, naturellement, pour vous, c'est des années-lumière. Hein, mais quand on est journaliste sportif, on doit connaître...
Coppa, pour ma part, c'est un grand-père qui m'a appris l'histoire du foot, qui m'a raconté, qui m'a appris à aimer ce sport. Et c'était l'idole de sa jeunesse. Ils ont un an d'écart, donc... aujourd'hui, nous, on a eu Zidane, mon grand-père, c'était Raymond Coppa, et on a toujours parlé avec beaucoup de bien. Et même vendredi matin, quand j'ai appris sa mort, il était très triste.
Oui. Et avec des matchs qui n'étaient pratiquement pas remontrés à la télé, c'est ça aussi.
C'est sûr
il y avait le mythe, un peu comme Cerdan ou comme Bobet.
Quand on voit des images sur Internet aujourd'hui, on se dit qu'est-ce que c'est que ce football ? Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, mais ce mec-là avait l'air d'avoir une capacité d'élimination face aux défenseurs qui était incroyable.
Bon, c'est vrai que les défenses étaient moins serrées, il y avait plus d'espace aussi dans le jeu, c'est vrai, mais enfin bon, c'est une époque. Pierre, pareil, c'est ton grand-père ?
Mon grand-père, il n'aimait pas trop le football.
Ah, mince.
Mais je me suis renseigné, j'ai vu des images sur YouTube comme tout le monde, et puis l'épopée de 1958. Quand on aime le foot, on aime ces joueurs-là, c'est tout. C'était un grand joueur et c'était un des premiers à être parti à l'étranger pour 1 million d'anciens francs.
Oui.
Donc avec la grande époque de Di Stéfano au Real, moi ça m'intéressait. J'aime bien l'histoire en général et donc j'aime bien l'histoire du sport.
Et puis Ballon d'Or, 3 Coupes d'Europe, le premier qui est parti à l'étranger avant Michel Platini.
Oui, puis comme vous l'avez dit, c'était un mec simple, ça se voyait, il était gentil. C'était un espèce d'ouvrier du football, quoi, si vous voulez. Et puis moi ça me plaît ce genre de choses.
Très bien, en tout cas on va lui naturellement avoir une immense pensée pour lui ce matin et lui dédier cette émission. Il sera inhumé donc mercredi à Angers, donc le jour donc du match entre le Barça et le Paris Saint-Germain, ce qui nous permet donc de faire la transition sur la Coupe d'Europe. Bon, ils sont qualifiés, le Paris Saint-Germain, Juliette. Après ce match historique, référence quand même.
Oui, 4-0, oui, bien sûr. Mais alors attendez, il faut qu'il joue là-bas. Hein. Il ne faudrait pas qu'il fasse petit bras et qu'il recourt tranquillement. Non, là, je pense qu'ils vont faire un 3-1 tranquille. Et puis, ils vont.
Ah oui, alors on peut s'attendre quand même à une réaction du Barça, parce que
des humiliations comme ça,
on n'en prend qu'une fois dans sa vie quand on est sur Barcelone. Mais enfin, quand même, face au Paris Saint-Germain, il y a quand même 5 buts.
Oui, mais ils l'ont dit.
C'est pas Celta Vigo. Hein.
Ils sont capables, mais simplement, il faut que Paris fasse attention. Que Paris joue et que Paris marque au moins 2 buts. Et là, je pense qu'ils vont gagner 3-1. Voilà.
Faut que Paris joue au football. Après, personnellement, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens. Il y a une défense derrière, il y a un très bon gardien en ce moment, il y a Verratti qui sera là. Et je vois pas comment le PSG peut se faire éliminer, sachant que même devant, ça va jouer en contre. Et il y a Paris qui a acheté un mec comme Draxler cet été, on l'a vu au match aller, ce type-là, c'est un tueur. Donc visiblement, Di Maria ne sera pas là. Il sera trop juste pour jouer, donc ça devrait Pastore qui arrive à garder le ballon, ou Lucas qui va très vite.
Qui est bien Pastore actuellement, il est bien.
Mais Pastore est très bon et Lucas est toujours aussi nul comme à son habitude. Je vois pas comment le PSG peut se faire éliminer. On a beau retourner le problème dans tous les sens, ça paraît impossible. Ouais.
En tout cas, José, ce match du PSG 4-0, il y avait tout. Ça fait partie des matchs historiques du Paris Saint-Germain. C'est peut-être avec le match contre Madrid, le match référence du PSG, comme l'ont été jadis matchs de Saint-Etienne, de Marseille ou même de Bordeaux, hein, quand ils battent le Milan AC 3-0.
Peut-être que c'est même un ton au-dessus du match de l'époque d'Arthur Georges, les Valdo et Ginola et tout ça.
Enfin, c'était peut-être... Contre Rath, c'est pas mal.
Oui, c'était pas mal. C'était pas mal, mais bon, à une autre époque, bien sûr, il y a à peu près 20 ans, voire un peu plus. Mais c'est vrai que le 4-0 au Parc des Princes contre Barcelone, c'est rare de voir ça.
Il n'y a pas eu un match, il n'y a pas eu une seule faille.
Je les vois mal gagner à Barcelone au Nou Camp. Mais je crois quand même qu'ils marqueront un ou deux petits buts, mais je crois que Barcelone gagnera quand même peut-être un ou deux buts d'écart, mais je pense que le PSG peut passer ce tour et éliminer le Barça.
En tout cas, au niveau stats, pour l'instant, il y a 0% de chance.
Oui, si on prend les statistiques...
C'est
vrai que pour remonter 4 buts, c'est très très compliqué. C'est pas impossible, mais à condition... Si Paris joue, je pense qu'il n'y a aucun problème. Faut pas qu'il joue comme contre Nancy hier après-midi, parce que
il voulait pas se blesser.
Je pense, Juliette.
Mais José l'a dit, ils devront jouer au football. Il faudra pas jouer à 5 défenseurs derrière, attendre que l'adversaire vienne, parce que le Barça, ça sera des vagues de toute façon.
Je pense que Unai Emery connaît bien Barcelone, puis il va mettre un système, il va pas défendre. Je pense pas. Il va profiter des espaces, et je pense que le Paris Saint-Germain avec Cavani et tous les bons joueurs qu'ils ont, je pense qu'ils vont pouvoir mettre un ou deux petits buts là-bas au Camp Nou.
Et d'ailleurs, c'est l'erreur que n'a pas faite Emery. Hein, quand Paris a mené 2-0, ils ont continué à jouer leur chose.
D'ailleurs, c'est à noter que Enrique va quitter le Barça en fin de saison.
Il l'a annoncé.
C'est de l'intox.
Est-ce que c'est pas les joueurs qui l'ont lâché?
Peut-être.
Mais il y a
parce que voilà.
Il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai jamais vu Barcelone jouer comme
vrai.
Ça.
Ah bah c'est vrai. Alors,
il y avait quelque chose
qui était aussi.
Messi marchait sur le terrain.
Oui.
Et l'autre Brésilien est en
Neymar.
Mais c'est vrai qu'ils ont un trio d'attaquants pratiquement.
Il est en train d'attacher ses godasses.
Et même Kimpembe, il chipait le ballon. Ah, Messi,
incroyable. Il y a quelque chose
c'est vrai qu'il y a un manque de motivation en ce moment de la part du Barça. Mais je pense que contre une grande équipe. Contre une grande équipe comme le Paris Saint-Germain, je pense quand même, rien que pour le prestige, je pense qu'ils vont pas laisser filer le match comme ça. C'est une question de suprématie. Même s'ils sont éliminés, je pense que Barça va jouer quand même.
Oui. Alors, Boris, c'était Barcelone qui était en dessous de son niveau ou c'était le PSG qui était largement au-dessus?
Oui,
comme
ça,
il y a toujours un peu des deux.
Il y avait les deux, mais je pense que c'est une chance.
Non, parce que ça a été une question qu'on a souvent entendue.
Il y avait les deux, mais je pense que c'est une grande chance. Pour Barcelone, c'est une grande chance d'avoir perdu 4-0. Parce que ça va les faire gagner le championnat en Espagne.
Ah ouais, comment? Ils ont pas le choix.
C'est une certitude. Ils ont pris une claque. Ah oui, mais on peut prendre les paris aujourd'hui. Ils vont être champions d'Espagne. Ouais, sans problème. D'ailleurs, il y a vraiment le résultat depuis le match de Paris. Après, rassurez-vous, messieurs, dames, Paris est qualifié. Hein.
Oui, non, bien sûr.
Ils auraient gagné 2-0. On aurait dit tous autour de cette table qu'ils avaient 80% de chance d'y être. Bien sûr, il va falloir jouer. Et je pense même que. Vu ce qui va se passer, Barcelone doit marquer des buts. Ouais. Je pense que Paris ira gagner à Barcelone.
3-1, 4-1, ça aurait été un peu différent. Hein. Si Umtiti marque sa tête...
4-1, ça m'aurait permis de gagner beaucoup d'argent au côté match.
Pour Barcelone. Hein.
Mais ce match, on peut le mettre en lien avec... il y a 3 ans, quand Paris bat Chelsea au match aller 3-1. Donc c'était Laurent Blanc, l'entraîneur à l'époque. Et au match retour, on a eu Laurent Blanc qui a dit à ses joueurs, apparemment, visiblement et d'après des sources dans le vestiaire... Ne vous inquiétez pas, on ne prendra pas deux buts.
Non mais 3-1, c'est pas 4-0.
C'est
pas possible, tu perds 2-0, là faut perdre 5-0, ça n'a rien à voir.
C'est que ce match-là, ce match-là, Laurent Blanc donc, avait dit à ses joueurs, on ne prendra pas deux buts dans les vestiaires, on est qualifié, on a gagné 3 en match aller, et à l'arrivée, c'était 2-0. Mais c'était une erreur de l'entraîneur, comme ce qu'a fait Laurent Blanc pendant 3 ans.
Ses forces.
Je maintiens que PSG marquera au moins un ou deux buts.
Et puis l'entraîneur est pas le même, même malgré l'estime que j'ai. Laurent Blanc, il n'a pas la même vision des choses.
Emery est un grand entraîneur au Paris Saint-Germain, on a enfin un grand entraîneur.
On commence à le dire.
Mais non, on commence à des doutes en début de saison.
Oui, jamais de la
vie. Énormément de
sur Emery, jamais.
Moi, j'en avais pas, mais bon.
C'est vrai, écoutez les bandes.
C'est vrai qu'on réécoutera pas. C'est vrai que quand on regarde le début de saison de Emery, on aurait pu se poser des questions. Maintenant, on commence à s'apercevoir que, quand même, c'est un grand d'Europe.
Alors, attention, hein, il reste après le stade des quarts de finale, ce fameux stade que le PSG passe pas. Alors, on verra.
Mais là, quand même, avec 4 buts d'avance, quand même. À moins de passer complètement à côté de leur match, je pense pas.
Moi, je suis pas la meilleure ligue du monde.
Oui, vas-y, Pierre.
Moi, je pense que si Paris prend un but tôt dans le match, la confiance peut s'inverser.
Ouais.
Et qu'après, le Barça peut déferler sur Paris.
Donc, toi, tu crois que ça peut faire 5-0?
C'est peut-être mon côté marseillais qui parle. Mais moi, j'aimerais bien, en tout cas.
En tout cas, si c'est le cas, on te paye le champagne parce que tu auras été le seul à se revoir autour de cette table. Voilà. Donc,
c'est Paris en face, c'est pas les Ganes ou la Corogne.
C'est pas le secteur Vigo comme.
Faut pas exagérer. Je veux dire, Paris aujourd'hui, faut regarder les choses, faut regarder les 10 ans qu'on vient de passer. Paris, quand même, fait partie des 7-8 équipes en Europe qui méritent leur place. Et aujourd'hui, Barcelone fait pas une grande saison. Ils sont en course pour le titre, mais t'es peut-être un petit peu en dessous des autres saisons. Paris est au-dessus. Voilà, terminé. Enfin voilà, c'est bravo. Parce que il y a très peu de gens avant le match de l'aller qui auraient dit même Paris gagne 1-0 ou 2-0.
Il y a tout dans ce match.
Donc franchement, chapeau. Quoi.
Même les buts. Il y a tout. Voilà. Bon, réponse en tout cas mercredi. Et ensuite, la semaine d'après, vous voyez, on s'était pas trompé. Hein, quand on vous avait dit le mois dernier, réservez vos soirées. C'était même la Saint-Valentin, mais c'était pas grave. Réservez.
Par contre, c'est vrai que.
On s'était pas trompé. Et la semaine d'après, ça sera Monaco contre Manchester City.
C'est vrai que Monaco, ils ont loupé le coche. Ils auraient pu au moins préserver le match nul. Ils ont pris deux buts à la fin qui auraient peut-être pu éviter. Là, c'est un peu délicat quand même de remonter deux buts.
Malgré le fait qu'il y ait deux buts d'écart seulement à monter pour Monaco, Manchester City peut marquer aussi. Hein. Attention,
c'est vrai.
On l'a bien vu en Coupe de France cette semaine.
On l'a vu contre Marseille aussi. La défense,
Monaco se relâche, quoi. Monaco se relâche. Parfois,
ils ont gagné de justesse contre Marseille 4-3. C'est vrai que c'était un match un peu.
Oui, contre
un
Chambly
peu fou,
en Coupe, pareil. Oui. Ils ont
facilité à marquer des buts, mais ils en prennent aussi facilement.
Donc, Monaco joue à Manchester comme ils jouent en championnat, c'est-à-dire attaquer. Derrière, on oublie de défendre. Arriver en Coupe d'Europe, on joue un grand d'Europe, faut modérer les propos, mais on joue un grand d'Europe et ça prend 5 buts. Parce que dans ce match-là, c'était deux défenses très faibles.
Faut noter que les Anglais, faut se dire une chose, ils jouent 90 minutes à fond, ils jouent pas 30 minutes et ils se relâchent.
C'est vrai que dans le match de Monaco, ce qui est pas compréhensible, c'est pourquoi Falcao tire le penalty. Fabinho, il met tous ses pénaltys. Et pourquoi il laisse pas le ballon à Fabinho? Je comprends pas ça.
C'est simple.
Il aurait mis le pénalty, je pense que le match était plié.
Bien sûr.
Ouais, mais enfin, quand tu regardes le but de Falcao.
Oui, bien sûr.
Tu lui pardonnes. Alors, bien sûr, c'est pardonner un pénalty, c'est arrivé au plus grand joueur du monde.
Zlatan hier.
Quand tu vois le but qu'ils mettent derrière, la défaite de Monaco, c'est pas dû à Falcao.
Non, bien sûr.
Remettons les choses en place, c'est leur défense qui n'est pas à l'image de ce qu'il est. Par contre, si Monaco arrive à avoir une défense l'année prochaine digne de ce nom, alors là, il n'y aura pas grand monde pour les battre en Europe.
Non, mais Monaco, comme tous les ans, ils vont se faire piller leurs meilleurs joueurs parce que c'est leur marque de fabrique. Faire des joueurs d'un certain niveau pour les vendre très cher après.
Il y a de l'argent.
Ouais, mais c'est pas leur culture, ils veulent vendre les joueurs. C'est Bernardo Silva, c'est vendu.
Ils ont une petite perle en ce moment, c'est Bernardo
Mbappé,
Silva.
Monaco, c'est un peu des élevages. Bon, ils achètent des joueurs à 3 millions et puis ils leur vendent à 20 millions.
Alors que Paris les forme.
Mais Paris les forme. Oui, Paris les forme. Paris les forme. Là, en ce moment, on a des jeunes qui rentrent dans le Paris Saint-Germain.
Non,
Monaco achète des joueurs pour les revendre.
Non, non,
c'est vrai. Il y en a combien qui jouent à Paris?
À très peu.
Il y en a 11. Il y en a 11 là. Non, pas hier. Mais il y a 11 dans le groupe.
Et à Barcelone, combien il y en aura?
On ne peut pas tous les faire jouer, enfin, quand même. Qu'est-ce qu'on ferait dessus?
Rabiot.
C'est comme
Monaco. Non, mais attends, écoute. Non, il y en a au moins 5.
Monaco me fait penser à Porto. Ils vont chercher des joueurs qu'on ne connaît même pas.
Oui, voilà.
Et ils les achètent 500 000 euros, ils les revendent de 30 millions.
Tout à fait. Non, Paris ne fait pas ça.
Bon, voilà pour la Coupe d'Europe. d'Europe en tout cas.
C'est deux équipes qui achètent des joueurs.
On va quand même rappeler que aussi
Paris achète des stars. Ouais.
Donc Benfica bat tout Dortmund 1-0, que le Bayern aussi hein, écrasé Arsenal 5-1. Donc c'est classique, c'est traditionnel. Ouais. Hein, ouais. Arsenal une nouvelle fois va s'arrêter au stade des huitièmes. Real Madrid Naples 3-1. Ouais, un beau match en perspective, beau match retour.
Le match aller déjà était très beau. Et à San Paoli, non, c'est quoi? C'est pas en San Paoli. Comment il s'appelle le stade de Naples? J'ai oublié déjà.
À San Paoli.
Si, c'est ça, San Paoli. Ouais, ça va être un très, très, très beau match. Il va y avoir une belle ambiance et Naples peut faire un coup. Ils ont encore battu.
Sinon, on va rappeler.
C'est pas 5-0. Ouais. Hein.
L'Atlético qui a battu les Verkusen 4-2. Bon, c'est joué pour l'Atlético. Séville, Leicester 2-1. Là, ça risque d'être un peu plus juste, bien que Leicester marche moins bien cette année.
Avec un nouvel entraîneur.
Oui.
Ranieri a été limogé.
Pour dire juste un mot, c'est honteux. C'est Ranieri qui a réalisé l'exploit des 50 dernières années.
L'année d'avant.
Bah ouais.
C'est la loi du sport.
C'est la loi du sport. Faut pas oublier que Leicester de base, c'est comme si Rambouillet était champion de Ligue 1 et derrière ce entraîneur se faisait dégager.
C'est un pion comme deux journées. C'est
le style.
Ramène du chiffre.
Leicester, c'est Rambouillet.
C'est ça. C'est le style de truc qui peut dégoûter du football. On parlait de Raymond Coppa à son époque. Jamais on aurait vu ça. Donc
Boris vient de résumer.
Apparemment, l'entraîneur de Nantes serait pressenti pour Leicester.
Oui, ils en ont parlé.
Pour la saison prochaine.
C'est dommage parce qu'il a bien ramené Nantes qui était dans le fond du classement et ils sont, je crois,
attention à Nantes.
Allez, on envoie la pub. On va quand même rappeler que la Juventus est aussi allée gagner à Porto 2-0. Donc c'est pratiquement fait pour la Juve. La pub et la musique. Et ensuite, on parle de l'Europa League.
Briffaut Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Briffaut Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site briffaut-électricité.com.
Vous voulez devenir propriétaire dans un cadre rural avec une qualité de vie exceptionnelle, avec des équipements adaptés, une école, niveau maternel et primaire, des équipements sportifs, une médiathèque, une salle polyvalente et des associations dynamiques? Pont-Évrard, à 3 km de Saint-Arnaud en Yvelines, est un village dynamique, résidentiel, adapté pour accueillir votre famille. Il est desservi par des lignes de bus régulières et situé à proximité d'une gare routière vers RER et TGV et de l'autoroute A10 à 11. Alors découvrez le lotissement Lorée du Bois en lisière de forêt à Pont-Évrard et il est éligible au prêt à taux zéro. Contactez la mairie, 5 place de la mairie, au 01 30 41 22 13. 01 30 41 22 13. Changez de vie et devenez Évry Pontin.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dans mes lacs, qui dans C'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous.
Région avec RVE.
Voilà, puis naturellement cette émission en podcast dans le courant de cet après-midi, comme toutes celles donc des mois et des semaines précédentes que vous pouvez réécouter. L'Europa League, bon, Bibi est pas là, je sais qu'il est encore en pleine déprime, hein, élimination donc face à Manchester United, 3-0 donc au match aller, 1-0, il n'y a pas eu de révolte des Verts, c'est ça qui est grave au match retour. Bon, c'est vrai que Saint-Étienne n'a pas été trop gâté par l'arbitrage au match aller, mais il y a eu quand même beaucoup trop d'occasions de gâcher, ce qui fait que si on réussit et on concrétise les occasions, l'arbitrage ça devient un détail. Hein. Voilà.
C'est sur le match aller qu'il y a des regrets.
Ah, oui,
parce que Saint-Etienne avait eu des grosses occasions, et puis c'est vrai que l'arbitrage Zlatan, voilà, ils ont arbitré Zlatan comme une star, quoi.
Pas
si
valable, le penalty non plus.
Ouais, voilà, quoi. Ça lui revient dans les pieds. Après, c'est vrai qu'au match retour, c'était faible. Hein, quand
il
n'y
a pas eu la révolte.
Mais Saint-Etienne, même Bibi l'a dit plusieurs fois, c'est faible. Robert Berić, il est revenu, mais même il loupe des occasions. Va vraiment falloir qu'il trouve des attaquants, parce que Saint-Etienne, à part le public qui met vraiment de l'ambiance dans le chandron, l'équipe elle est vraiment pas à la hauteur.
Saint-Etienne,
c'est un peu comme Marseille, le public met le feu, mais l'équipe suit pas, malheureusement.
Ouais. Donc malheureusement, sur les deux matchs, c'est pas illogique, même si quelqu'un qui aurait pas vu le match aller 3-0, il dit voilà, ça
oui,
fait
c'est
pas
vrai,
match, mais bon, sur l'ensemble des deux matchs.
Moi j'avais pas d'illusion. Hein, au match retour, je savais très bien que Manchester allait se qualifier. Après, je pensais quand même que Saint-Etienne allait. Voilà, je pensais que Saint-Etienne allait mettre au moins un but ou deux. Mais...
Disons que Manchester a géré sa victoire de l'aller, et puis bon, ils ont quand même gagné 1-0. Ils ont remarqué au chaudron, mais ils se sont contentés de gérer le résultat. C'est tout.
Oui,
ils ont eu. Et Saint-Etienne non plus n'a pas voulu contrer, n'a pas voulu jouer. Ils ont été en spectateur déjà à l'aller. Bon, ils ont admiré Zlatan qui avait fait le triplé. Et au retour, ils ne sont pas révoltés comme on est en train de dire, et c'est dommage.
Donc Saint-Etienne éliminé, Lyon qualifié, Lyon poursuivra l'aventure en 8e de finale contre l'AS Roma, ça ne va pas être facile. Lyon qui s'est imposé donc 4-1 contre AZ Alkmaar, et puis 7-1 au match retour. Bon, on s'attendait à ce que Lyon l'emporte, peut-être pas aussi facilement, mais voilà, il n'y a pas eu photo.
Il y avait des occasions quand même pour Alkmaar.
Sur, hein, pour Alkmaar en début.
Quand on a vu le match aller, on pouvait s'attendre au résultat.
Disons que Lyon, il joue en dents de scie, un coup c'est bon, un coup c'est moins bon. Bon, c'est incompréhensible à ce niveau-là, mais bon.
Le plus dur commence pour eux maintenant. Le présent là a des ambitions apparemment en Europa League.
Bah c'est vrai que contre l'AS Rome, ça va être compliqué. Ils ont tiré peut-être le plus mauvais tirage.
C'est peut-être le plus mauvais tirage, mais Lyon a...
Qui vous dit que ça va être compliqué? Mais non.
Bah, Lyon, 50,
hein. Mais bien sûr.
Au départ, c'est 50-50.
Oui, tout peut
jouer. C'est quand même pas l'adversaire idéal, quand même.
Non, mais Lyon a ses ambitions. Ouais. Lyon a ses ambitions en Ligue Europa, elles sont claires, c'est gagner la Ligue Europa, donc s'ils veulent gagner la Ligue Europa,
impossible.
Faut... C'est pas impossible, exactement. Il y a le potentiel.
Tu m'aurais dit
pour,
Saint-Etienne, j'aurais dit c'est totalement exclu, mais Lyon c'est pas...
Lyon c'est pas
moi,
impossible,
je les vois,
il faudra sortir à la Roma.
Pourtant ils sont inconstants.
Le problème c'est ce que j'allais dire, Philippe, les résultats sont pas constants.
Si je joue comme l'année dernière contre Bâle...
Oui, puis le problème c'est pas, surtout que le match aller il est à Lyon, et le match retour il est à Rome.
Et Rome tourne bien cette année, c'est ça surtout. L'AS Roma, ça n'a pas toujours été le cas, mais là il tourne bien. Deuxième du championnat.
Moi je pense que ça va être compliqué.
Très bien, donc réponse le mois prochain. On en vient au championnat. Donc Paris Saint-Germain hier qui s'impose, j'allais dire petitement, laborieusement, devant Nancy 1-0. Juliette, est-ce que il reste quand même, il faut aller chercher les points face à Monaco. Il reste 3 points si Monaco gagne ce soir face à Nantes. PSG-Toulouse, c'est quand même le match des occasions manquées. C'était une belle occasion.
Oui, Paris a pu gagner Toulouse.
Juste après Barcelone.
Mais je crois qu'ils étaient tellement contents d'avoir gagné Barcelone qu'ils n'ont pas non plus fait ce qu'il fallait. Et puis Toulouse, ils étaient à 50 derrière. Enfin, oui, ça, aussi. C'est classique maintenant. Il l'a dit, Mathudi, dès que les clubs viennent jouer à Paris, ils sont tous en défense. Alors bon, il faut que les joueurs adverses apprennent à jouer contre Paris. On ne vient pas pour faire un mur et puis laisser.
Oui, mais Julien, ça c'est 0-0. C'est le lot de toutes les grandes équipes d'Europe. Le Bayern, le Barça, ils sont exposés. Le Real, ils sont exposés à ça tous les week-ends.
Mais
ils gagnent leur match aussi.
Pas toujours.
Alors, je voudrais quand même qu'on parle du Classico parce que c'était le match phare de la semaine dernière, 5-1. Olivier. Et puis Pierre, comment vous... Bon, il n'y a plus de match au bout d'un quart d'heure.
Vas-y Olivier, je te laisse.
Il
n'y
a plus de match au bout d'un quart d'heure.
J'étais au Vélodrome. Donc,
C'est pour ça, ouais.
Personnellement, c'était la première fois que j'ai quitté le stade à la 65e. Quoi.
Ouais,
4-0,
il
n'y
avait plus de match. Comme beaucoup de Marseillais, on a vu.
Il y en a beaucoup qui sont partis. Non, mais bon, il y a perdre et perdre. On savait que forcément, on allait, entre guillemets, perdre le match. Maintenant, le match est bâclé au bout de 14 minutes. Aucune révolte, aucun duel gagné,
il y avait deux mondes d'écart. Ce qui est grave, c'est que Marseille, quand ils jouent devant des équipes un peu plus huppées, offensivement, ça se passe mal. Ils ont pris 4-1 contre Monaco, ils ont été battus à Lyon 3-1. C'est-à-dire que quand ils tombent sur des équipes d'un calibre un peu au-dessus, défensivement,
On a joué Monaco 3 fois cette année, on a pris 12 buts. On a joué Paris, on prend 5. Le top 3, voire même le top 5, on n'y arrive pas. Quoi.
Marseille, entre la 6e et la 10e place, c'est à peu près ça.
On se rattrape en battant des équipes, entre guillemets. Nous, notre championnat, il se joue contre Saint-Etienne, Bordeaux.
On va essayer de se battre pour la 5e place.
Est-ce qu'on ne prépare pas déjà la saison prochaine? Surtout,
c'est ce que j'allais dire.
Avec Payet, Evra, Garrigue. D'autres joueurs sont annoncés, peut-être Giroud.
Non mais d'accord, moi je veux bien qu'on prépare la saison d'après, mais faut pas bâcler celle-ci non plus. Il y a des gens qui vont au stade, il y a des gens qui regardent les matchs.
Oui, il revient de loin quand même.
Non mais c'est n'importe quoi ce qui s'est passé.
Ouais. On se rappelle quand même.
J'ai honte de l'équipe, moi, je vous le dis.
On se rappelle que quand Garcia a pris l'équipe, quand même, c'était pas terrible quand même. C'était pire que maintenant.
D'accord. Mais enfin, je sais pas ce qu'il leur dit dans le vestiaire. Parce qu'à la mi-temps, il y a que 2-0. Je sais pas, il peut y avoir une révolte aussi après en deuxième mi-temps.
C'est vrai.
On a l'impression qu'ils sont vaincus.
Je pense que cette année, ça va être.
Je veux bien qu'il y ait deux classes d'écart, mais faut pas exagérer. Un peu de grinta. C'était sans les banderoles. On n'a rien vu.
Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je pense que c'est une année de transition. Et l'année prochaine, je pense que M. McCourt peut investir et acheter des joueurs d'un autre calibre. Et je pense que, quand même, je l'ai dit et je le répète, il y a quand même un entraîneur, c'est un monsieur Rudy Garcia. Qui est...
Essonien d'ailleurs, qui a fait sa carrière en Essonien. Il y a eu un beau papier, tiens.
Un super entraîneur et je pense qu'il va pouvoir construire une équipe, je suis pas spécialement pour Marseille, mais je souhaite quand même que Marseille ait une grande équipe de l'équivalent du PSG ou Monaco, et je pense que dans les deux ou trois années qui viennent, ils vont pouvoir rivaliser avec Monaco et Paris Saint-Germain.
Quelle idée aussi d'aller acheter Evra. Enfin bon, ils pouvaient mettre un jeune de la formation ou de
peut-être
chez
pour l'équipe, pour l'expérience.
L'expérience, il est arrivé blessé, il a encore blessé.
Evra, c'est le même coup que Lizarazu il y a 15 ans quand il est venu jouer à Marseille, il était cuit.
Il est
resté un an et demi. C'est d'ailleurs assez dommage de finir sa carrière là-dessus. Et Evra, il va finir pareil. Et si l'avenir de Marseille doit passer par Evra, alors là, c'est catastrophique. Par contre, je trouve intelligent le recrutement de Certic. Très bon joueur. Je trouve intelligent.
Et Soyen aussi, Certic.
Comment?
Il vient de l'Essonne, Certic.
Je trouve très intelligent le recrutement de Sanson. Très bon joueur. Il leur manque un gardien, un ou deux arrières de très haut niveau. Et l'année prochaine, ils vont être dans la compétition.
Il manque quand même un attaquant devant. Parce que Gomis, on savait pertinemment qu'il n'allait pas pouvoir faire 38 matchs. Il n'y a que lui devant.
C'est vrai. Il manque 3 joueurs.
Ils nous lâchent au mois de mars, au mauvais moment, dans le sprint final.
Les défenseurs surtout, hein, parce que chaque match, ils sont statiques.
Comme on l'a dit, ils prennent des buts devant les grandes équipes.
Par contre, j'ai trouvé la déclaration de McCourt avant le Classico. Très, très déplacé.
Oui, tout à fait.
Je crois qu'il a mis une pression qui n'était pas nécessaire cette année sur son équipe. Il fallait garder l'humilité, même si c'est le contexte du PSG. Il faut respecter le PSG. Il ne l'a pas respecté dans ses propos. et je trouve que c'était pas le bon moment de mettre la pression sur ces joueurs. Il n'y avait pas obligation de gagner pour Marseille, il y avait obligation de mouiller le maillot.
Absolument. Je suis d'accord avec toi, mais et ça c'est son côté américain en fait.
Ouais, mais va falloir que s'il veut que Marseille soit compétitif, qu'il apprenne à découvrir la France.
C'est vrai.
L'esprit américain, il est bon, mais il faut apprendre déjà à connaître le contexte avant de faire ses déclarations. Et je pense qu'il a mis une pression supplémentaire sur ses joueurs qui a été qui s'est retournée
mais
contre l'équipe.
Disons que l'avant-match, bon, comme souvent dans les classicos, ça parle un petit peu de la presse, mais là on a un petit peu trop parlé.
Ouais, c'est vrai,
ça
ne
sert à rien. Et les Parisiens n'ont rien dit.
Comme toujours.
Ils ont préparé leur match. Et ça a été une démonstration.
Parce que là, c'est bien de parler dans la presse, mais après il faut agir sur le terrain.
Ouais, exactement.
Mais même pour Monaco, contre Monaco en Coupe de France. 4-3, c'est flatteur, hein, parce que Monaco, franchement,
le match, il
était vraiment
au-dessus. Il doit s'arrêter bien avant la prolongation.
Mais c'est là, c'est ce que disait Olivier.
Bah oui.
Gomis, il nous lâche, il se blesse, le pauvre. Mm-hmm. Et on voit qu'il n'y a personne derrière. Ça, c'était une erreur du recrutement de Mercato d'hiver, de ne pas prendre une doublure. Ils prennent Payet à 30 millions, je veux bien, mais il fallait prendre une doublure pour Gomis, parce que voilà, c'est quand même un des meilleurs joueurs cette année. Il a mis 17 buts quand même, c'est pas négligeable. Hein. Mais puis Sanson qui est pas là aussi, il manque aussi. Comme dit Boris, c'est un très bon joueur.
Pour revenir sur McCourt, il y a aussi une erreur de sa part. Cette semaine, il a promis que son Champions Project apporterait une Ligue des Champions dans les 2-3 saisons. Je vois pas comment Marseille peut gagner la Coupe d'Europe, allez, on va dire, dans 3 ans.
Il a dit dans les 2-3 saisons.
Il a dit dans les 2-3 saisons.
Il l'a dit et.
C'est impossible.
C'est la méthode Coué en fait.
Voilà. Ou comme dit Pierre, c'est son système américain, non ? C'est ça ?
Oui, non, mais c'est ça. C'est voilà. Aux États-Unis, on aime les vainqueurs, on aime les gens qui vont de l'avant, qui ont de l'ambition. En France, c'est un peu mal vu, on n'aime pas trop les premiers.
Regardons le PSG, ils ont actuellement un meilleur projet que Marseille. Donc j'espère que pour Marseille, ça va se débloquer. Mais ça fait 6 ans que les Qataris sont là et on n'a toujours pas de Ligue des Champions, on n'a pas joué une demi-finale. Ouais. Donc à l'arrivée, il faut forcément constater qu'une Ligue des Champions est très compliquée à gagner.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que Marseille ne gagnera pas la Ligue des Champions dans 2-3 ans.
Non, mais.
Mais je pense. Tout objectivement que Marseille est plus fait pour l'Europe de son histoire, de son expérience, de son passé que Paris.
Oui,
c'est mon avis. Je pense que on va aller plus loin vite en Europe
là-dessus,
que vous l'avez fait.
Je suis d'accord avec toi, mais Marseille doit recruter. Dans ces cas-là, tu recrutes pas Certic,
on verra cet été. De toute façon, on verra cet été. Si cet été le recrutement est fait et que ça marche pas. Là, il va commencer à y avoir des problèmes.
Mais l'Olympique de Marseille recrute Dimitri Payet comme attaquant star, comme joueur star. Dimitri Payet, ce mec a 30 ans, il a dans son palmarès, tu le sais.
Non, mais ça, là, je sais pas. Là, je m'en fiche.
Tu recrutes Sanson, tu recrutes Certic pour être dans les 3 premiers du championnat. Tu les recrutes pas pour être champion d'Europe. Il faut remettre, je parle pour les supporters, mais il faut remettre Marseille en ligne pour être compétitif dans le championnat avant d'imaginer faire de la performance.
C'est
des joueurs de championnat.
De championnat.
Voilà. Pour donner la valeur.
Après, c'était que le mercato d'hiver. Hein. C'est un mercato d'opportunités. Ouais. C'est pas.
À l'instant, déjà, pour être au niveau de championnat avec Monaco et Paris, il va leur falloir au moins 2-3 saisons. J'ai pas dit qu'ils allaient gagner la Coupe d'Europe. Attention,
actuellement.
La Coupe d'Europe, ils ne la gagneront pas dans 2-3 ans, je suis certain.
En tout cas.
Peut-être, mais pas la Ligue des Champions.
Si il a dit que dans 2-3 ans, ils pensent faire quelque chose, c'est qu'ils ont l'intention d'acheter des joueurs.
Si Paris, ça fait 4-5-6 ans qu'ils courent après le titre. Et comme dit Arnaud, on n'a pas encore été en demi-finale. Donc, et pourtant, on a les meilleures stars mondiales.
Allez, la Coupe de France maintenant. Juste pour dire, Diarra, il est parti, ça y est, hein, c'est fini. Hein.
Ouais, mais.
Tant mieux!
Franchement, je comprends pas ce joueur, il aura gâché sa carrière.
Oui, il a gâché sa carrière, partout, c'est à l'image du joueur de football qui respecte pas ce sport.
Je pense qu'il doit y avoir des choses qu'on sait pas.
Tout partout, ça s'est mal terminé.
Ça s'est mal terminé. Pourtant, il avait fait une très bonne saison. Hein. Franchement, l'année dernière, c'était un joueur exemplaire. Et puis, je sais pas ce qui se passe avec ce joueur.
Allez, la Coupe de France. 6 clubs de Ligue 1, un national, un CFA, ce sont les clubs qui restent donc au stade d'écart. On en avait beaucoup parlé le mois dernier à travers donc les matchs de Sainte-Geneviève-des-Bois et de Fleury-Mérogis. Tiens, Olivier, on a appris que Viry-Châtillon, il y avait des soupçons sur cette équipe de Viry-Châtillon qui a été donc éliminée en 32e par le Poiré Survie.
Effectivement, j'ai entendu ça aussi sur le Poiré Survie.
Soupçons
des joueurs de Viry auraient parié sur leur propre défaite.
Ouais, c'est vrai. Bah, à ce niveau-là,
c'est vrai que c'est. Si c'est vraiment confirmé pour le
club, c'est la fin du club,
qui est déjà très très mal en CFA, qui est dernier. Et
apparemment, 3-4 joueurs l'auraient fait.
On sait ces choses-là pour certains clubs, mais je suis persuadée que ça existe dans d'autres clubs et que ça se fait en douce et que personne ne dit rien.
C'est la française des jeux, comme des algorithmes, etc.
Le Hand était pareil.
C'était exactement pareil pour le Hand. En fait, ils voient, c'est l'argent, ils savent.
Le problème que tu vas avoir, les pauvres, c'est qu'ils ne s'appellent pas Karabatic et qu'ils ne vont pas y échapper, ceux-là.
Voilà, en tout cas, on va quand même revenir sur quelques résultats de coupe. Hein. Auxerre battu par Fréjus 2-0, c'est le cendrillon donc de cette coupe.
Auxerre qui avait battu Saint-Étienne 3-0.
Ouais. Donc oui, ça avait d'ailleurs généré la colère de froide de Bibi, hein, qui était vraiment
Auxerre,
en colère.
Se traîne en Ligue 2 aussi.
Hein. Oui.
Se bat pour pas descendre.
Et puis donc Bordeaux qui a battu Lorient 2-1. Monaco qui va gagner à Marseille. On en a parlé 4-3. Lille, hein, qui s'est imposé difficilement. On s'y attendait un peu. À Bergerac 2-1.
Eder, le briseur de rêve.
Oui, comme d'habitude.
La dernière minute, exactement.
Angers qui s'impose aussi difficilement face à Bastia 1-0. Et puis, bon, PSG qui a battu New York 2-0.
Quelle pelouse.
Hein. Ouais, en plus, c'était du water football. Hein.
Parce que ces joueurs ont aimé. Alors là, j'ai pas compris, mais bon.
C'était bon pour les rhumatismes.
Et puis aussi, d'accord.
Ça, typiquement, Paris qui a des échéances européennes, ça aurait pu être dangereux et jouer sur une pelouse pareille. Donc,
c'est la Coupe de France.
Je suis le premier à dire, typiquement, ce genre de match, tu mets l'équipe 2.
Oui, mais les joueurs auraient pu se blesser aussi.
Je suis d'accord, il y a 4 classes entre les deux équipes. Faut pas trouver d'excuses.
Mais Niort est un club de Ligue 2, il y a 4 classes. Niort est un club professionnel, à preuve du contraire. Mais bien sûr que si, Niort est un club professionnel.
Ils ont joué sur un terrain un peu gras, bon.
Plus qu'un peu gras.
Je me souviens, moi, de Sochaux, il y a 25 ans, qui jouait sur la neige et personne n'en parlait.
Avec le ballon orange.
C'est vrai. Non, le match était praticable. C'est vrai que Lucas a failli marquer un but, mais la balle s'arrêtait à cause de la boue.
Voilà. C'est vrai. Et puis, dernier petit résultat qui va nous faire plaisir, c'est Avranches. 1-1 après prolongation, ils ont battu le Strasbourg 6-5. Pourquoi ? Parce que finalement, Avranches, Olivier, ça prouve que Fleury, qui est tombé en 16e sur Avranches, donc 1-0, ça prouve que finalement, ils ont fait un parcours très honorable. Battu par une équipe qui arrive en quart de finale.
Tout à fait, ouais. Non, mais Avranches, c'est une équipe. Par excellence, ouais. Le peu que j'ai vu, effectivement, c'est. Ils ont rien lâché parce qu'ils se sont fait égaliser dans les arrêts de jeu. Et puis, bon, ils ont fait le dos rond, ils ont attendu, ils ont été au tir au but.
Par contre, ils sont très mal en championnat national. Hein.
Ouais, apparemment.
La coupe leur laisse des traces, ils vont peut-être descendre en CFA.
Souvent, les équipes qui réussissent en coupe, c'est les équipes qui sont très mal en championnat.
C'est pour ça que
c'est. Il y a 4 ans, 5 ans.
Ouais.
Même l'année où Calais,
en 2012, c'est pour ça que les entraîneurs aiment pas trop, quand même, prolonger les aventures.
Quand les petites équipes rencontrent des équipes professionnelles, ils se transcendent et ils se surmotivent et ils donnent tout ce qu'ils ont pour essayer de,
là maintenant,
comme ils savent qu'ils passent à la télé et tout ça pour quelques joueurs pour essayer de sortir un petit peu du lot. Et puis de toute façon, c'est la motivation.
Oui,
tu joues contre un club professionnel, t'es motivé et tu te dis
maintenant Avranches va remplir Dornano, recevoir le PSG, on perd 1 ou 2-0, pas plus. Et
je crois que le président d'Avranches était ravi de rencontrer le PSG.
Il y a l'Arcet naturellement.
Il y a un tirage très difficile pour Paris Saint-Germain, Avranches, après Niort.
Voilà. Justement, Angers-Bordeaux, Monaco-Lille, ça sera les deux matchs de Ligue 1. Et puis on aura donc Fréjus-Guingamp. Attention quand même, pour Guingamp contre Fréjus. Hein. Et puis donc Avranches-Paris Saint-Germain. Bon, PSG, Bordeaux, Guingamp, Monaco, c'est le Caradas. Ce sont des habitués. Hein, c'est le Caradas qu'on va retrouver en demi. Ce seront vos habitués.
Angers, c'est pas mal. Hein. Ils font des petits trucs. C'est des moyens limités, mais faut regarder un petit peu les moyens qu'ont ces clubs-là. Je trouve que c'est pas du très haut niveau, mais des clubs comme Angers peuvent créer une surprise, aller en demi, voire en finale. Non, il y a rien d'écrit dans la Coupe de France.
Pourquoi pas. Mais la plus grosse affiche, on va dire, c'est peut-être Monaco-Lille.
Je préfère Angers-Bordeaux, moi.
Oui, Angers-Bordeaux, c'est les deux meilleures équipes de
Je pense que ça va être plus.
Il marche très bien en 2017.
Mais je veux dire, sur le papier, la plus grosse affiche est Lille-Monaco ou Monaco-Lille.
C'est vrai que sur le match retour, Bordeaux, ils sont pratiquement dans les deux premiers. Hein. Je crois que c'est même
ils sont
équipe,
dans les...
hein,
oui, ils sont dans les
match retour.
Oui, et contre Lyon, vendredi, ils font un partout, mais ils devaient gagner le match.
Très bien. Voilà donc pour les quarts de finale, ça sera les 4 et 5 avril. Allez, la pub, la musique, et ensuite on va enchaîner sur. Est-ce que Noël Le Graët va être élu à la tête de la Fédération française de football ? On y va. Allez.
Bienvenue au San Lazzaro. Venez déguster ses pizzas et le meilleur de la cuisine italienne dans un cadre convivial et accueillant, agrémenté d'un jardin d'hiver ou à emporter sur commande. Restaurant San Lazzaro, 103 rue Georges Lenôtre à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 05 77. Ouvert tous les jours sauf dimanche de midi à 14h15 et de 19h à 22h15.
Il est fissuré, la peinture s'écaille, votre plafond vieillit. Creative Design lui donne un coup de jeune et le remplace par un magnifique plafond tendu. Quelle classe! Sans odeur ni poussière, sans déménager, Creative Design vous en assure la pose dans la journée. Fini les plafonds abîmés, cloqués ou humides. Avec Creative Design, votre plafond tendu mat, satiné ou brillant, garanti 10 ans, est tout simplement superbe. Appelez vite Creative Design pour un devis gratuit au 01 58 88 21 20 58 88 21 20.
Nous étions des millions entre républiques et nations, protestants et catholiques, musulmans, juifs et laïcs, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics, solidaires avec ceux de Charlie. Et puis j'ai vu défiler quelques bandits notoires, présidents, sous-ministres et petits rois sans gloire. Et j'ai vu le long du trottoir un flic qui avait l'air sympathique. Alors je l'ai approché et j'ai embrassé un flic. J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic, ça change des coups de trique. J'aurais pas cru il y a 30 ans qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras, j'en serrerais un contre moi. Car je me suis approché. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Vers la nation fraternelle et pacifique, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics. Et les snipers sur les toits nous faisaient avec leurs bras de grands signes d'amitié et de solidarité. Alors pour les remercier et pour la première fois de ma vie d'anarchiste, je suis allé embrasser un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Et j'ai embrassé un flic.
Et le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, alors on parlait du Paris-Nice hein, au début de cette émission. Bah, effectivement, c'est le véritable lancement de la saison cyclisme aujourd'hui. Ça va partir de Bois d'Arcy pour une boucle donc qui ralliera aussi Bois d'Arcy. Donc départ à partir de 13h, 148 km 500. Vous pourrez voir les coureurs dans notre coin vers Dampierre, la côte de Senlis, Cernay-la-Ville, les Vaux-de-Cernay, Offargis ou les Ménules entre 13h31 et 14h15 et dans la deuxième boucle entre 15h17 et 15h58. Arrivée prévue donc à 16h40. À Bois d'Arcy, tiens, puis Juliette, ils seront aussi à Ben. Hein, ils passeront aussi à deux reprises, ouais, à Ben. Et puis demain, on sera en direct demain matin hein, sur l'antenne Nerveux, entre Rochefort-en-Yvelines et Amilly, c'est dans le Loiret. Étape longue de 195 km, départ à 11h50 hein, de Rochefort-en-Yvelines. Et les coureurs, vous pourrez les apercevoir entre 12h et 12h30 sur les routes entre Saint-Arnoult-en-Yvelines, Rochefort, Dourdan, Les Granges-le-Roi, Richardville, Autun-la-Plaine, Saint-Escobie, Pucet et naturellement la ville de Tony Galopin, Angerville, arrivée prévue à 16h30 sur à Amilly. Voilà, donc ça sera pour le véritable lancement de la saison cyclisme sur Paris-Nice. Alors, on revient au ballon. Bernard Laporte élu président de la fédération sur le rugby. Bernard Gudicelli est élu président sur le tennis. Est-ce que la fédé de football va avoir un nouveau président ou est-ce que Noël Le Graët va être purement et simplement réélu? Juliette, alors c'est moi, un patron quand même à la fédé par rapport à ce qu'on a connu dans le passé avec du chaud
soit qu'il ne soit pas réélu.
À mon avis,
pour
il sera
plusieurs raisons. Ouais. La première chose, je trouve qu'il est malhonnête. La deuxième, je trouve que c'est un hypocrite.
Pourquoi?
Parce que quand vous voyez qu'il soutient Aulas pour qu'il puisse mettre Colas soit son chevalier servant.
C'est vrai qu'il est pris
Colas
contre
nous. Et pourquoi il veut à tout prix Colas? Parce que Metz a eu le jet de pétard. Bon. Metz a récupéré 3 points avec sursis. Et ensuite, Aulas a eu aussi un supporter qui a lancé un pétard. Et pour ne pas punir Aulas, ils ont préféré faciliter Metz.
Le match sera d'un jour rejoué le 5 avril, en même temps que les quarts de finale de Coupe de France.
Mais la punition devait être le retrait. Par contre, les filles de Paris Saint-Germain ont eu un match contre Metz. Et 5 minutes avant la fin du match, comme par erreur, ils ont fait rentrer une gamine qui voulait faire jouer parce que Paris menait déjà 4-0.
Oui.
Eh bien, ils ont retiré 4 points à Paris. Et pourquoi ? 4, ils ont retiré. Et pourquoi ? Parce que les filles d'Aulas, comme les poupées russes, comme je les appelle, doivent être premiers. Ils veulent à tout prix que ce soit Lyon qui soit premier. Ils ont enlevé 4 points parce que la saison dernière, c'était 4 points qu'on ajoutait aux filles. Et cette année, c'est 3. L'année dernière, c'était 4. Alors, enlever 4 points aux filles parce qu'on a fait rentrer une gamine qui voulait jouer 5 minutes avant. Et quelque part... on va donner des points pour des pétards lancés. Ben la prochaine fois, je lancerai des pétards sur le terrain.
Voilà. Tiens, on parlait du Paris Saint-Germain. Elles ont gagné à Beaubain 2-1 contre Juvisy. Hein. C'était
oui,
le derby
mais
francilien
elles sont deuxième
la
pour
semaine
le
dernière.
Moment. Sinon,
oui.
Elles étaient voilà. Premières. Alors là, non, je ne suis pas d'accord. Et Le Graët, il faut qu'il nous présente son bilan s'il veut se représenter.
Ouais.
Je veux un
mars,
bilan
hein,
chiffré et présenté dans un journal, l'équipe ou n'importe lequel. Et je veux voir son bilan. Parce que dans ces bilans-là, des fois, il y a des choses un peu bizarres qui se passent.
Aulas qui va rentrer à la Fédé, au côté Noël Le Graët. Bon, en plus, c'est pas le même bord politique. Bon, enfin, ça, c'est autre chose.
T'inquiète pas, ils vont jouer leur jeu entre eux.
Ça, c'est autre chose. Voilà.
Très honnêtement, je veux pas rentrer dans ces affaires politiques.
Oui,
enfin, pour moi,
c'est pas politique, c'est footballistique.
Oui, bon, enfin, c'est, bon, c'est très politique aussi.
Dans les Fédé, ouais. Footballistique.
Je vais dresser un truc très simple. Au rugby, ça va mal. Ils ont changé de président. Au football, depuis 5-6 ans, ça va très bien. Noël Le Graët est là. Je vois pas pourquoi on changerait. Après, c'est vrai
que je pense qu'il va être très
bien.
Moi,
est-ce que,
à l'inverse du rugby et du tennis, qu'on est nouveau président?
Juliette, pour faciliter les choses, est-ce que Noël Le Graët et le foot français est pourri? C'est une question, oui ou non. Je n'ai pas la réponse, mais c'est une question que je pose.
Certainement, il y a quelque chose. Je dis, parce que de toutes les manières, il y a une mafia derrière. Et moi, je veux.
Il va y avoir pire en Europe quand même que le championnat de France, je pense.
Il y a
qui en face?
Il y a Rousselot, donc ah oui, autant dire qu'il est déjà élu, Le Graët.
Ouais.
Il n'y a rien en face, donc c'est déjà pipé.
Bien sûr.
Voilà, c'est fini.
C'est
fini, il n'y a pas d'élection.
Pour être réélu, il a pris Aulas pour son marche-pied.
Il n'y a pas d'élection. Donc il y a un problème.
Il y a un problème s'il prend Aulas, c'est pour mieux se redistribuer l'argent aussi, parce que les riches sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres.
Aulas, il a besoin d'argent. Voilà, pour son stade de lumière qui, pour
rien.
Moi, deviendra
mais
un stade de
ténèbres. Puisqu'on parle de politique, puisqu'on parle de Lyon, moi j'ai une question à vous poser. Bibi nous écoute peut-être. Il y a 3 semaines, il y a Corentin Tolisso qui assassine Fabien Lemoyne.
C'est
un meurtre sur un terrain, c'est un meurtre. 2 matchs de suspension. La semaine dernière, il y a Cahuzac, le Bastier.
On peut poser des questions,
Oui, c'est vrai que
toute proportion gardée qui fait tomber le tableau d'affichage de l'arbitre, il prend 3 matchs. Expliquez-moi comment on peut se retrouver avec seulement 2 matchs pour Tolisso et 3 matchs pour le Bastier. On a une présidente de la Ligue qui a été élue maintenant il y a le 15 décembre, si je dis pas de bêtises, qui était membre jusqu'à cette date de l'OL Foundation. Et on se retrouve avec des suspensions pareilles. Moi, c'est juste la question
c'est
que j'ai
posée. C'est vrai que dans certains cas, on peut se poser un certain nombre
de questions.
Sur les manches
de mesure.
Ouais, des commissions de discipline. Un dernier petit mot. Il y avait la CAN, le Cameroun qui a battu l'Égypte 2-1. Vous en pensez quoi? Vous avez suivi cette finale? Ça vous a plu?
Franchement, cette année, je vais être honnête. Moi, je suivais la CAN les autres années. Oui. Cette année, j'ai un peu suivi, j'ai regardé les matchs et ils étaient pas terribles du tout.
Bah, comme
il
n'y avait
pas beaucoup de buts.
Depuis quelques années, non, quand mais
il y a des années, je trouve que c'était mieux. Là, cette année, j'ai pas trop aimé.
Ils se sont européanisés, nos Africains, maintenant.
Peut-être un peu trop.
Oui, c'est ça le problème.
Peut-être un peu trop.
Au niveau médiatique, c'était moins important que les entraînés.
En saison, donc c'est difficile.
Le but d'Aboubakar, en finale, il est beau.
Ah, il est magnifique.
Qui était formé à Valence. Tout à fond.
Oui, qui a joué à Lorient, je crois.
Qui a joué à Lorient après. Ouais.
Ouais, donc, non, c'était.
En tout cas, finale, Rémi Ngono, le copain, à Juliette, a fait la fête.
Juste pour dire un mot, le problème de la CAN, c'est qu'il faudrait que ça soit tous les 4 ans, pas tous les 2 ans.
Oui.
Les Lions indomptables sont de retour.
Juste vous dire, quand j'avais parlé des contrôles pour les joueurs, pour les équipes, vous m'avez dit non, il y a des contrôles. Et ben non, l'Espagne, ça fait 10 mois qu'ils n'ont pas été contrôlés.
Allez, merci en tout cas à tous et à tous. Merci à Victor d'avoir été ce matin en manette de cette émission, une nouvelle fois très passionnée et enflammée. Rendez-vous le 2 avril, tiens, au lendemain de la finale de la Coupe de la Ligue à laquelle assistera Arnaud à Lyon, entre le PSG et Monaco, et Tribune Sport la semaine prochaine. Salut.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnut.